Bonjour, je m'appelle Alice Vacher et avec l'agence de podcast Bababam, nous avons décidé de lancer l'empreinte. Nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de PDG de grands groupes, de directeurs de la communication, de la RSE, qui se battent chaque jour pour valoriser l'image, l'empreinte de leur entreprise. Petite précision, ces épisodes ont été enregistrés avant le confinement. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Roche, chef économiste du groupe Mars et fondateur d'Economics of Mutuality. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Je suis ravie de t'accueillir dans L'Empreinte.
Merci de ton accueil.
Avec grand plaisir. Ce matin, je regardais un petit peu du coup ce groupe Mars. Moi, Mars, clairement, c'était le Mars. C'était quand même aussi le riz, etc. Mais j'ai vu la multiplicité... des entreprises finalement fédérées, mais c'est un groupe énorme, gigantesque. Mmh. Qu'est-ce que tu peux me dire en deux mots de ce groupe-là avant de me parler de toi?
C'est un groupe c'est encore un groupe familial, entièrement privé. Donc c'est ça qui fait aussi sa particularité d'un point de vue actionnariat et valeurs et culture, naturellement.
Mais tu le ressens encore cette culture familiale?
Oui.
Dans cet énorme groupe?
Oui, la famille et les valeurs sont présentes, vraiment. Et c'est ça qui te dit, c'est la raison pour laquelle j'avais rejoint ce groupe il y a presque 25 ans maintenant. C'est pour les valeurs, les principes et cet actionnariat familial qui permet d'avoir une vision plus long terme et également une croissance plus... plus en phase avec les besoins de la société. C'est ça qui est intéressant.
Et donc, toi, tu as dû en voir plein des rachats.
Oui, mais en même temps, l'ADN de l'entreprise est resté intact. Et d'ailleurs, en tant que chef économiste, j'ai aussi travaillé sur les cultures d'intégration, la dimension culturelle dans les rachats d'entreprises. Parce que voilà, on sait aujourd'hui qu'à peu près seulement un tiers des fusions-acquisitions créent de la valeur économique. Et que la raison numéro un pour laquelle il n'y a pas de création de valeur, ce sont des misfits culturels qui existent entre les entités rachetées et les entités qui rachètent. Et donc cette dimension culturelle est très 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 importante. Et je sais qu'il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur un point de vue purement financier. Pour moi, je m'étais intéressé à la dimension culturelle des entreprises. Les cultures des entreprises peuvent se marier pour faire quelque chose de cohérent. Et donc, c'est une approche plus anthropologique que sociologique et aussi fondée sur les valeurs. Donc, oui, la culture Mars est forte, la culture Mars a réussi à être conservée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Mars est un immense groupe avec presque 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 120 000 associés dans le monde entier. Bref, moi, je m'y perds dans cet océan.
C'est un
groupe en très bonne santé aussi, qui continue à grandir.
Oui, puisqu'il a aussi une variété dans son portefeuille de marques.
Oui, il y a naturellement les produits historiques comme les barres de chocolat, Mars, M&M, Snickers, Bounty, j'en oublie sûrement. Il y a aussi les bonbons, les chewing-gums, comme les Wrigley, les fruits dents, etc. Puis il y a aussi toute la dimension du food humain qui est un peu plus petite, mais bon, des grandes marques quand même comme Ebly, comme Uncle Ben's. Et puis toute l'immense entreprise de produits et de services vétérinaires, de produits pour chiens et chats, comme Whiskas, Pedigree, Royal Canin, etc., mais aussi pour les produits vétérinaires. Donc, c'est intéressant d'un point de vue aussi business, de dire que Mars n'est plus seulement une entreprise de manufacturière de produits, elle est aussi une entreprise de services de santé pour les animaux de compagnie, et puis aussi qui est en train d'évoluer également vers une société de connaissances, donc d'équipement des chiens et des chats de GPS pour pouvoir les suivre, les traquer, etc. Donc c'est intéressant de voir la dimension
humaine.
C'est une
société qui s'adapte en fait aussi aux nouvelles technologies qui s'adapte aujourd'hui aux enjeux environnementaux. Voilà. On va en parler forcément.
Et c'est vrai que la dimension, les gens connaissent Mars pour les produits en chocolat, etc., mais moins pour les produits pour animaux.
Mais aussi parce que le naming, le branding, le Mars, c'est vrai, moi quand je vois le groupe Mars, je m'attendais à avoir en gros déjà un code couleur un peu noir. Pas du tout, c'est bleu. Ah bon, alors je me suis plantée. Puis en fait, après, ils mettent en gros Royal Canin et tout. Je me dis, non, c'était vraiment comme quoi il y a encore une. Finalement, on est plus touché par les marques du groupe que par le groupe en lui-même.
Oui, et ça, c'est correspondé d'ailleurs à une culture volontaire dans le sens. Pendant très longtemps, Mars a voulu mettre en avant ses marques et non pas l'entreprise en tant que telle. Et c'est une stratégie assez récente de commencer à parler du groupe Mars.
Oui, parce que j'ai vu qu'il était quand même maintenant présent sur les médias sociaux, etc.
Ouais,
donc
Mais c'est récent.
Mais de façon complètement différente de chacune des marques.
Voilà, donc c'est très récent. Ouais. Ce qui intéressait beaucoup l'entreprise, c'est de mettre en avant les marques et la relation avec le consommateur final. Et finalement, qui était derrière était secondaire. Contrairement à des entreprises qui avaient une vision plus de mettre en avant la marque corporate et ensuite les marques qui clignaient dessous, Mars a plutôt eu une approche différente. Et la raison pour laquelle d'ailleurs on a commencé à parler du groupe Mars en tant que tel, c'est qu'on a compris justement par rapport à ta question de RSE, c'est que les consommateurs, la société civile au sens large, a besoin de savoir qui est derrière ces marques, quel type de valeur ils portent. Donc c'est à ce moment-là que une prise de conscience au niveau de l'entreprise en disant, bon, la discrétion, c'est une valeur, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très ancré dans la culture d'entreprise. Mais si la discrétion peut être perçue comme une forme de culture du secret, là, c'est plus une très bonne chose. Donc, on va commencer à parler de nous, on va commencer à parler de nos valeurs, mais toujours avec cette idée selon laquelle le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit.
Top ça. Et toi, du coup, quand tu as rejoint le groupe Mars, donc il y a 25 ans, quel était un peu ton parcours? Parce que c'est vrai que là, on a commencé le podcast à l'envers, on a parlé du groupe avant de parler de toi, mais ça, c'est de ma faute. Mais c'est
parce non, que c'est très bien, c'est passionnant. Si. C'est beaucoup plus important de parler du groupe que de moi.
Moi, ça m'intéresse vraiment, parce que 25 ans dans un groupe comme celui-là, voilà, d'où tu viens, quelles étaient tes études, est-ce que tu as toujours voulu travailler dans un grand groupe?
Non, moi personnellement, je viens d'une famille d'intellectuels, d'enseignants, de chercheurs, et j'ai fait des études de finance au niveau d'un doctorat, et je pensais vraiment faire une carrière académique. Dans son, je pensais enseigner l'économie, la finance, à l'université. Et puis j'ai rencontré un peu par hasard cette entreprise qui venait démarcher sur les campus. Et j'étais pas...
Qui était déjà très implanté ou pas encore?
Oui, mais qui était assez peu connu, en fait. Elle était plus connue dans le monde anglo-saxon qu'en Europe continentale. En discutant avec les gens des ressources humaines, j'ai perçu quelque chose de vraiment intéressant, des cultures. Et on est resté en contact, dans le sens où on s'est vu régulièrement, etc. Et puis à un moment, ils m'ont fait une offre pour venir les rejoindre. Dans un job qui n'était pas vraiment défini, mais en me disant, voilà, c'est vraiment le type de personne, vous êtes le type de personne qu'on veut avoir dans notre entreprise, pas nécessairement pour faire un job en tant que tel, mais pour tout comme le potentiel que ça pouvait représenter de travailler avec eux. Donc j'étais séduit par cette offre, parce que je trouvais que c'était une offre un peu atypique. En général, les gens postulent pour un job. Et là, je postulais pas pour un job, je ne demandais pas un job, et on m'a proposé quelque chose qui était même pas un job, qui était plus de rejoindre une structure.
Un think tank, peut-être, presque,
ouais,
des choses comme ça.
Ouais, c'était un peu comme ça, et donc j'étais séduit par cette approche. Je me dis, si ça marche pas, au bout de 2-3 ans, j'arrête, et puis je retourne à mes études, et puis voilà, je continuerai mes études académiques. Et enfin, compte, voilà, 25 ans plus tard, presque un peu plus maintenant, voilà, j'y suis encore, voilà. Donc c'est les valeurs, vraiment, les valeurs, les principes, la culture qui m'ont attiré et qui font que je suis resté toutes années.
Et donc toi, tu as vu, du coup, puisque on va revenir au cœur du sujet qui est la RSE, tu as vu cette évolution de prise de conscience écologique, sociale oui. des entreprises.
Oui, et en fait, c'était cette dimension de ce qu'on appelle de la mutualité en anglais, mais qu'on appelle plutôt la réciprocité en français, c'était un principe qui était inscrit dans l'ADN de l'entreprise dès 1947. Il y avait le fondateur d'entreprise qui avait dit, voilà, le but de l'entreprise, c'est de promouvoir une réciprocité dans les échanges de l'entreprise avec toutes les parties prenantes, en commençant par les consommateurs, naturellement, mais aussi en incluant la société, l'environnement, déjà en 47, et en dernier, les actionnaires. Donc, en quelque sorte, dans cette vision, de se dire, l'entreprise n'a de sens que si elle crée une réciprocité de bénéfices entre toutes les parties prenantes de son écosystème, dont les actionnaires font partie, mais les actionnaires sont en dernier.
Oui, et puis finalement, le bien-être du groupe aura cet effet boomerang sur les actionnaires. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils étaient en dernier dans la chaîne.
Mais c'est une vision qui était assez moderne à la fin des années 40, de dire le seul objectif d'entreprise, c'est ça. Alors que le capitalisme financier, quelques années plus tard, disait non, le seul but d'entreprise, c'est de maximiser les profits pour les actionnaires. Donc, quand j'ai pris conscience de cette dimension de la réciprocité comme un moteur de la performance économique, je me dis, là, il y a quelque chose de vraiment intéressant à creuser. Alors, pendant des années...
Puisque le but n'était pas non plus de ne pas rémunérer les actionnaires, non, mais c'est qu'en fait, la création de valeur venait de l'entreprise même et du coup, du reste pour les actionnaires.
Ouais, et c'est vraiment l'idée selon laquelle ce principe qui s'appelle le principe de mutualité dans la culture Mars est écrit en grand dans tous les murs. Bref, c'est le principe distinctif du modèle économique de Mars.
Donc déjà à l'époque,
47.
L'environnement
au sens
était
large.
Créateur de valeur.
Au sens large. Alors après, ça a été toujours, tout dépend Enfin, après, ce principe, il a été mis en pratique de manière plus ou moins...
C'est ça. Comment concrètement, dans les faits, ça a été...
Plus ou moins
est-ce
fidèle.
Est-ce que par marque, finalement, tu me parlais d'un ADN commun, d'une culture, etc. Est-ce que pour chaque marque, cet ADN, cette culture entre RSE, était appliquée ou finalement différenciée en fonction
On l'a jamais appliqué comme ça. On l'a jamais appelé la responsabilité sociale d'entreprise parce que je pense que c'était un modèle qui était... c'était une expression qui est venue plus tard. Mais... Au départ, l'écosystème d'entreprise était quand même assez restreint, parce que c'était une petite entreprise au départ. Et puis, en devenant de plus en plus grande, la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes a commencé à grandir. Et ce principe a toujours été quand même un guide. Alors, c'est un peu comme les 10 commandements. Les 10 commandements, on les enfreint tous les jours, on les brise tous les jours, mais on sait quand on les enfreint. Et donc, je pense que la culture d'entreprise, elle a cette valeur, dans le sens, quand elle est forte, quand elle est pratiquer, ça veut pas dire qu'on ne l'a, ça veut pas dire qu'on la pratique tous les jours correctement.
Oui, mais quand on la pratique pas, quand on voit les barres chocolatées, c'est bourré de sucre et c'est emballé dans du plastique.
Oui.
Donc concrètement, en termes d'écologie, ça va pas.
Concrètement, il y a une tension à ce niveau-là.
C'est ça.
Voilà. Et en fin de compte, je pense que la culture d'entreprise, elle est là pour mettre en évidence la tension.
De toute façon, la demande sera de moins en moins là pour ce type de produit.
Il y a un vrai risque, oui.
Et comme tout le business est drivé par cette demande, il va falloir que les marques de ce portefeuille se réinventent.
Mais ce n'est pas simple, parce qu'il y a malgré tout...
Il y a quand même des consommateurs.
Il y a des consommateurs, et puis quand on leur dit ce qu'ils veulent, ils ne disent pas ce qu'ils font. Dans le sens, il y a une différence entre le déclaratif et ce que les gens comportent.
Et il n'y a pas du tout de baisse de vente de ce type de produit, finalement.
Non, ça se passe bien. Alors, on a essayé pendant quelques années, de créer des barres de chocolat qui étaient... moi, que je trouvais délicieuses, qui étaient en plus même des barres de chocolat à base de polyphénol, qui avaient un impact positif sur la santé, etc., qu'on vendait en pharmacie, ça s'appelait Cocovia à l'époque, et c'est un produit qui était merveilleux sur le plan de la conception, mais qui ne correspondait
pas
aux besoins.
Mais peut-être à l'époque, et peut-être
aussi aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps que ça, ça fait 7-8 ans qu'il y avait... Donc, les comportements alimentaires changent lentement.
Très lentement, en fait.
Lentement, oui.
Et du coup, est-ce qu'un groupe comme Mars peut éduquer ces nouveaux comportements? Parce qu'aujourd'hui, ce type de problématique, est-ce que c'est vraiment à l'État de prendre le sujet ou est-ce que chaque marque doit pouvoir, enfin chaque entreprise doit pouvoir aussi prendre ces sujets-là?
Chaque entreprise doit prendre conscience des points de tension qu'il y a dans son écosystème et de trouver des solutions profitables pour les régler.
Par exemple, nous, on avait Fleury Michon là dans le podcast. Complètement attaquable. Ils ont tout revu, tous leurs plats et ils sont maintenant presque A ou B. Et quand c'est C, de toute façon, qu'ils n'arrivent pas à revoir la recette pour l'améliorer, ils le mettent en gros. Aujourd'hui, en fait, c'est compliqué pour une entreprise de ne pas bouger. Et concrètement, qu'est-ce que Mars, mis à part, donc pas changer de recette, puisque je pense que les gens qui aiment manger un Mars et ils ne voudront pas un autre produit qu'un Mars. Qu'est-ce que fait le groupe pour, on va dire, améliorer son impact écologique quand ils savent qu'ils ne peuvent pas...
Alors, il y a beaucoup de travaux. Alors, moi, je suis un peu moins sur ces questions-là.
Ouais.
Donc, éventuellement, je pourrais mettre en relation avec des gens qui seront plus compétents pour répondre à ces questions. Mais moi, je suis plus sur la partie de la création de valeur en introduisant le principe de réciprocité qui permet à terme d'adresser toutes ces questions de points de tension dans l'écosystème. Parce que quand on regarde un écosystème très large, il y a naturellement la partie consommateur, mais il y a aussi la partie des parties prenantes en amont, les planteurs de cacao. Il y a énormément. Et donc, les points de tension sont tellement importants qu'on doit les adresser de manière aussi en fonction de ce que peut faire Mars. Mars ne peut pas tout faire. Ce que peut faire Mars avec d'autres, c'est la dimension également de coalition, d'acteurs, etc. Donc, c'est plus... moi, je suis plus intéressé pour des questions systématiques de changement du modèle économique en tant que tel. L'idée selon laquelle... Si l'entreprise a pour vocation de maximiser le profit pour les actionnaires, alors on va avoir un certain nombre d'actions qui vont se mettre en place pour créer du capital financier, en général, ce qui se passe aujourd'hui, au détriment d'autres formes de capitaux. Et quand on regarde l'histoire économique depuis une cinquantaine d'années, il y a une cinquantaine d'années, au début des années 70, le capital financier dans l'économie était rare. Et en revanche, il y avait d'autres formes de capitaux qui étaient surabondants. Les ressources naturelles étaient surabondantes. Les ressources humaines étaient aussi surabondantes.
Alors que là, elles sont tarissables.
Et en revanche, le capital financier était rare. Donc du coup, ce n'était pas absurde, puisque l'économie, c'est aussi la gestion de la rareté, ce n'était pas absurde d'inventer une école de pensée ou un modèle économique qui crée du capital financier. On avait besoin de plus de liquidités dans le système pour favoriser les échanges, structurer la mondialisation, etc. Et ça a bien marché. le capital financier a été créé de manière assez, assez rapide. Et moi, personnellement, je vois qu'il a bien marché jusqu'à la fin des années 80. C'est à ce moment-là qu'on commence à avoir les premières bulles spéculatives qui commencent à s'arrêter 87, 94, 2001, etc. Et de plus en plus, les crises financières détruisent la valeur. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, qu'est-ce qu'on a ? On a du capital financier qui est surabondant dans l'économie, on a des taux d'intérêt qui sont négatifs, et on a des raretés en termes de ressources naturelles et en termes de ressources humaines et sociales qui sont en revanche de plus en plus sous tension.
Ça s'est inversé en fait.
Ça s'est inversé. Donc on a eu un renversement des raretés.
Et quand est-ce que tu l'as vu vraiment ce renversement ?
Alors ce changement, déjà, quand on a commencé à travailler sur ces questions-là, fin 2005, 2006, on commençait déjà à sortir les choses. La crise 2008 a vraiment accéléré la création de capital financier à partir de rien. Hein. C'est les quantitative easing des banques centrales. Mais moi, je mettrais la bascule au début des années 90. C'est là qu'on a commencé à avoir un peu un changement. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une situation un peu particulière dans le sens. On fonctionne tous, soit au niveau macroéconomique, soit au niveau des entreprises, avec un modèle qui a vocation à créer du capital financier. Pour quelques-uns, alors que ce capital est devenu surabondant, alors qu'en parallèle, on a d'autres formes de rareté qui apparaissent, qui sont nécessaires pour la création de valeur de l'entreprise, et qu'on n'adresse pas du tout. On n'adresse pas au sens anglais du terme, on ne sait pas comment gérer ça. Alors, ce n'est pas être idéologue que dire cela, de dire que le modèle économique va changer. Si on ne gère pas ces formes de rareté, le modèle va nous détruire, dans ce sens. Donc moi, je pense que le modèle économique va évoluer. J'espère qu'il va évoluer à travers de la recherche, des expériences, de l'enseignement, et pas
au
travers
expérimenter de toute façon.
Et pas au travers de crises sociales, ou de guerres civiles, ou même de catastrophes naturelles. Mais donc, il va changer. Donc, c'est pas du tout un point de vue d'idéologue que je tiens. C'est un point de vue de bon sens, disons. Maintenant, la vraie question, c'est là que je rejoins ta question. Quels sont les acteurs de ce changement?
C'est ça. Ça m'intéresse.
Est-ce que ce sont les États?
Puisque l'État peut légaliser des choses ou autre.
Est-ce que l'État a la force encore de forcer en quelque sorte un modèle pour changer un nouveau paradigme? Ou est-ce que ce sont d'autres acteurs comme, par exemple, les entreprises, et en particulier les entreprises multinationales?
Surtout ces grands groupes comme
Alors, Mars. Pour les 50 années, on a observé effectivement un changement de nature, des raretés, qui appellent un changement de modèle économique. Ok. Dans la même période, on a aussi assisté à une explosion de la taille et de l'influence des entreprises multinationales. Il y a une cinquantaine d'années, les entreprises étaient de taille petite par rapport aux États. Aujourd'hui, les entreprises multinationales sont de taille équivalente, voire même supérieure à des États. Et surtout, ce sont des acteurs de la globalisation. C'est-à-dire que les États sont limités par leurs frontières géographiques. Les entreprises multinationales ont un scope global. Donc du coup, c'était la deuxième étape de mon raisonnement, dans le sens de dire, ok, changement de rareté, qui appelle un nouveau modèle économique. Qui sont les acteurs? Les vrais acteurs, si on veut être... On aimerait que ce soit l'État, mais si on est pragmatique, ça ne peut être que les entreprises.
Oui, c'est les entreprises, mais les deux aussi. Enfin, je pense qu'en fait...
Alors du coup, c'est plus un modèle économique, c'est un modèle de business, un modèle d'affaires. Ouais. Alors une fois qu'on a dit ça, on dit, bon, quelle peut être la stratégie pour amener les entreprises à envisager un modèle de création de valeur qui ne soit plus seulement basé sur la maximisation du profit pour les actionnaires. Comment est-ce qu'on peut faire? Et c'est là qu'intervient la notion sur laquelle, écoutez, on peut voir les choses de manière très négative en disant si on ne fait rien, le monde va s'écrouler, on n'aura plus de ressources naturelles, plus personne ne voudra travailler chez vous, il y aura du bashing pour les grandes entreprises. On le voit un peu quand même, hein, les jeunes générations... Par exemple, à HEC, là, j'apprenais récemment que HEC a blacklisté un certain nombre d'entreprises.
Ouais, bien sûr, mais les jeunes, les fuites de talents, on en parle tous les jours, ils ne veulent plus rejoindre des groupes.
Moi, je suis un papa, j'ai 4 enfants, mes enfants sont de classe d'âge qui... Donc, eux, ils n'ont pas eu tout envie de travailler pour une entreprise qui n'ont pas une raison d'être. Donc, on peut voir ça de manière très négative. On peut voir ça de manière très positive en disant, écoutez, oui, c'est vrai que le modèle financier a été performant, il faut le reconnaître. Il est devenu sous-optimum et maintenant, il devient, à mes yeux... destructeur de valeur. Et je pense que les taux d'intérêt négatifs qu'on observe aujourd'hui sont presque un artefact évident que la finance depuis longtemps n'est plus au service de l'économie. Alors, ça, on le sait depuis quelques années, mais maintenant, elle n'est même plus au service d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle s'auto-détruit. Donc, on se rend bien compte que là, si on reste dans ce paradigme, c'est tout le système de création de valeur qui est remis en question et qui est mis en danger. Donc, est-ce qu'il existe d'autres ressorts de la croissance qui ne sont pas fondés sur la maximisation du profit et la maximisation du profit pour les actionnaires. Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir à un modèle économique qu'on a appelé des economics mutuality qui dit, OK, Qu'est-ce qui se passerait si l'entreprise envisageait que l'écosystème naturel de sa création de valeur n'est pas seulement les limites légales de son entreprise, qui sont essentiellement ses actionnaires et ses employés, mais que c'est un écosystème beaucoup plus large, qui implique les fournisseurs, qui implique les clients, qui implique la société civile, l'environnement, la planète, au sens vraiment large, et que finalement là, il y a des ressources dans cet écosystème qu'on a ignorées jusqu'à présent. Et quand on les ignorait,
on a gaspillé,
on a mal géré.
Exactement.
Et donc, un écosystème beaucoup plus large. Et puis, à l'intérieur de cet écosystème, de dire, c'est vrai que l'entreprise a besoin de capitaux financiers pour fonctionner. C'est vrai. Et on ne remet pas ça en question, bien au contraire. Mais elle a aussi besoin de capitaux naturels pour fonctionner. Elle a aussi besoin de capitaux humains et sociaux pour fonctionner. On mobilise beaucoup de ressources sociales,
humaines. Est-ce que tu vois, du coup, que maintenant, on essaye d'aller, par exemple, replanter des arbres, on essaye de pérenniser les terres, de rendre plus verts certains espaces. Est-ce que tu le vois, en fait, que finalement, ces ressources on prend conscience qu'elles sont tarissables, qu'on a gaspillées, est-ce que tu vois, ou est-ce qu'en fait, finalement, c'est encore des grands mots et les gens disent qu'ils vont le faire ?
Parce que c'est aussi là, je pense que c'est... moi, je reste optimiste et je pense que le verbe est créateur. À partir du moment où on commence à parler et on commence à bien en parler,
à beaucoup en parler, et nous aussi nous voilà, podcast, voilà, on
les essaye. Choses changent, voilà. C'est ce que disait comment s'appelle-t-il l'auteur, je suis fatigué, l'auteur de la peste, Camus. Disait,
ah oui,
mal nommer les choses, c'est ajouter de la douleur au monde. Voilà, donc on commence à les nommer. Maintenant, il faut commencer à bien les nommer.
C'est ça.
Et donc, à partir du moment où on commence à nommer les choses...
Commencer à agir quand même pas trop
ensuite,
tard, parce que là,
voilà. Et moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a, pour finir mon précédent point, je pense qu'il y a là une opportunité extraordinaire pour les entreprises de réinventer leur modèle économique.
Elles sont déjà en train de le faire, et même les startups qui émergent, on en a beaucoup ici.
Voilà, il y a beaucoup de choses qui commencent à se mettre en place. Et,
les cercles vertueux.
Et c'est darwinien, dans le sens, celles qui marcheront, survivront, grandiront, celles qui ne marchent pas. Bref, il y a un phénomène darwinien. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la notion purement financière de l'entreprise est en train de disparaître. Alors, ce n'est pas encore exactement dans les mécanismes de création de valeur, mais le discours a changé. Et après, il y a des actions qui sont plus ou moins impactantes, plus ou moins réussies, mais on commence à avoir des choses. Et ça me rend
optimiste,
vraiment. Parce que je pense que l'être humain a cette capacité de réaction.
Tu m'as l'air optimiste, moi aussi je suis. Mais je pense qu'en fait, on ne se laissera pas tomber. Je suis assez optimiste sur l'être humain, en se disant qu'ok, on a gaspillé, qu'on a fait des choses, mais je pense que même les entreprises, même si certaines entreprises ne sont pas convaincues, ou peut-être un petit peu, on va dire les entrepreneurs, certains entrepreneurs, hein, pas tous, sont un peu égoïstes, comme le business va vers cette durabilité, cette conscience responsable de l'environnement, etc., comme il y a du business tabac, et que finalement ils sont drivés par ce moteur, eh bien ils vont faire mieux. Et d'ailleurs, souvent on disait oui, des personnes reprochent de greenwashing des entreprises qui essayent de faire mieux juste pour le business. Non, mais en fait, si on va vers une économie positive et verte, ça reste un cercle vertueux pour tout le monde.
Mais de toute façon, on n'a pas le choix, parce que l'entreprise existait bien avant le capitalisme, et existera bien après le capitalisme. Le capitalisme, c'est qu'une parenthèse assez courte d'ailleurs même dans l'histoire de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat fait partie de l'activité humaine, on a toujours été entrepreneur, ça fait partie de la nature. Après, il y a des modèles économiques qui sont plus ou moins favorables à l'entrepreneuriat. Et donc, le modèle économique basé sur la finance a été favorable à un certain type d'entrepreneuriat pour une période très particulière. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Et c'est important de discerner, comme disaient les philosophes, le temps et les saisons. Et aujourd'hui, on n'est plus dans un temps ou de saison de capitalisme financier, ça n'a plus aucun sens. Et d'ailleurs, je pense même qu'on peut regarder les taux d'intérêt négatifs comme un risque important. C'est vrai, ça peut foutre en l'air les pensions, par exemple, surtout dans le monde anglo-saxon. S'il n'y a plus de taux d'intérêt positif, les pensions s'effondrent. En revanche, on peut dire, tiens, mais effectivement, si les taux d'intérêt sont négatifs, ça peut donner l'occasion à des investissements dans les énergies renouvelables, dans les énergies propres, etc., qui d'un coup peut devenir beaucoup plus intéressante qu'il y a quelques années. Donc, le modèle économique, de toute façon, va s'ajuster vers les formes de rareté. La seule chose, c'est, pour moi, mes yeux, c'est de l'accompagner à travers l'éducation, de la recherche, des expériences, plutôt que par des crises. Et deuxièmement, de démontrer progressivement aux entrepreneurs, des petits comme les grands, que c'est une source de croissance, que c'est une source de performance.
Et encourager plutôt que dénoncer, inspirer plutôt que blâmer. Moi,
je pense
c'est
que
entièrement
dans la, je
dans
pense
la
que la profonde, enfin, l'être humain est appelé à fructifier et multiplier. C'est sa vocation. Là, je suis pas très à l'aise avec le concept de décroissance. je suis d'accord avec la décroissance du gâchis, ça je suis d'accord, mais je pense que l'être humain est appelé à la croissance. Il ne faut jamais cesser de croître, jamais cesser d'apprendre, jamais cesser de s'améliorer.
On n'avance pas sur des regrets, il faut avancer.
On n'avance pas sur des regrets, on avance également peut-être sur de la confession, sur de
c'est ça, et je pense que c'est en ce moment ce qu'on est en train de faire. Il ne faut pas juste dénoncer puisqu'on sait que c'est fait, maintenant il faut s'améliorer. Et moi c'est vraiment, je partage ton point de vue là-dessus.
Alors le point de vue, je pense qu'il y a un grand discours aujourd'hui, et même dans le monde anglo-saxon, qui est en train de, le monde anglo-saxon a évolué un peu tardivement sur ces questions-là. Je pense que ceux qui sont les plus en avance actuellement sur ces questions-là, c'est l'Europe continentale. Allemagne, France, Pays-Bas, etc. Donc c'est une grande conscience écologique et sociale. Peut-être la France est plus sur une conscience sociale,
oui,
à son histoire,
vrai.
Et l'Europe du Nord est plus sur une conscience écologique.
Hein. Donc il y a cette. Mais quoique ça arrive quand même là. Même
oui, mais quand même historiquement on voit un peu ce sont ces deux choses.
Tout à fait.
La Chine est très en avance également sur ces questions-là parce que c'est une question de survie. Eux,
ah oui,
je pense qu'ils ont
survie,
ils ont vraiment compris que le modèle marxiste n'est pas un modèle performant. Ils ont compris que le modèle capitaliste financier des Américains n'est pas un modèle performant. Ils sont en train d'inventer le troisième modèle.
Ouais, mais ils ont vraiment du boulot parce que justement,
énormément.
Eux, c'est l'un des plus gros pollueurs. Enfin,
ouais.
C'est.
Ouais, après, j'y ai vécu. Après les États-Unis, mais bon.
Oui, oui, mais j'y ai vécu et là, il y a du boulot. Si eux arrivent à faire quelque chose, je pense que nous, on est sauvés presque. Hein, donc,
ouais, vu la taille, oui.
Vu
mais en
la
tout
taille,
cas,
oui.
Eux, ils sont conscients. Dans le sens, il y a encore. En termes de, je parle en termes de conscience ici. Les Européens, donc occidentaux, ont ça. Les Anglo-Saxons, ils viennent tardivement. Et là, récemment, même, il y a eu là, cette déclaration du Business Roundtable qui a dit voilà, le but de l'entreprise n'est plus de maximiser le profit. Donc, on voit qu'il y a le discours en train de changer et c'est très salutaire. Maintenant, il y a le rôle d'entreprise. Je pense que les entreprises ont un rôle très important à jouer. Il y a le rôle des écoles de commerce qui est aussi très important. La formation du leadership est très, très importante. Il y a le rôle de la société civile parce que malgré tout, on vote avec nos euros ou avec nos dollars. Donc, on peut aussi choisir les produits qu'on veut acheter, les produits qu'on ne veut pas acheter.
C'est le consommateur.
Le consommateur.
Et tout à fait, c'est le consommateur.
Et puis, il y a le rôle de l'État.
C'est
quand même le rôle de l'État.
C'est pour ça qu'on disait, il ne faut pas le négliger.
Alors, un dernier point par rapport à l'entreprise, ma conviction personnelle et aussi le sens de mon combat, c'est que de la même manière que le problème est arrivé par la finance, la solution viendra par la finance. Et donc, si on n'est pas capable de changer au sein même de l'entreprise le plan comptable ou la comptabilité, qui est aujourd'hui une comptabilité financière, si la comptabilité ne reste que financière, elle ne pourra jamais s'adapter à une raison d'être qui n'est pas que financière. Si le but de l'entreprise est de maximiser le profit, alors la comptabilité financière est parfaitement alignée avec cette raison d'être. Si la raison d'entreprise est autre chose, et c'est vers cela qu'on souhaite engager les entreprises, parce que c'est une source de croissance et de responsabilité, la comptabilité doit également être alignée sur cette raison d'être.
Et moi,
qui ai une formation financière...
Fabrice Bonifay, je ne sais pas si tu le connais,
oui.
On l'a eu dans le podcast, il nous disait exactement ce que tu nous dis, et il est en train de le mettre en pratique justement avec le C3D,
oui.
Donc, qui regroupe toutes ces entreprises. Donc en effet, ça me fait plaisir de voir les mêmes messages d'experts comme vous deux.
Donc c'est la finance qui
voilà.
La finance
vous êtes convaincus tous les deux
est
de
au
ça.
Cœur des processus de création de valeur et donc en se réformant et vraiment le mot réforme pour moi a autant de sens que presque la réforme du XVIe siècle en se réformant la finance peut être un vecteur à la fois de responsabilité de l'économie mais également un vecteur d'innovation pour les entreprises.
La finance verte.
Finance verte, finance sociale, finance tout court.
Finance tout court. On va reprendre dès la finance. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter?
Je voudrais m'adresser à tous ceux qui t'écoutent,
qui écoutent.
Toutes les semaines.
Avec plaisir. C'est vrai qu'on ne leur passe pas un message. Ce serait peut-être sympa à chaque fois que je demande les mots pour nos auditeurs. Ça pourrait être sympa.
Et en particulier, moi, je voudrais m'adresser à la jeunesse, ou ceux qui ont l'âge de mes enfants et un peu plus, et leur dire qu'on est dans un temps qui peut être extrêmement anxiogène parce qu'il y a les critères de notre stabilité sont pas ceux de nos parents ou de nos grands-parents. Et c'est vrai qu'on a vécu depuis une soixantaine d'années en Europe une période extraordinaire de paix et de prospérité. Il faut savoir quand même que depuis la chute de l'Empire romain, depuis la chute de l'Empire romain jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a eu que 20 ans de paix consécutive en Europe. Nous, on a vécu là, on a vécu 70 ans de paix et de prospérité. Donc c'est une période extraordinaire en termes de on a pu apprendre, on a pu se développer, on a accumulé énormément de connaissances et de richesses. Maintenant, on est dans un moment un peu...
On a gaspillé.
On s'est comporté comme des enfants gâtés.
C'est ça.
Et maintenant, on est dans une période où on est dans un changement qui va être accéléré par la révolution digitale. C'est une chose qui arrive tous les 50-60 ans, mais la révolution digitale va être aussi impactante que l'électricité. Donc, ça va transformer complètement le mode de vie. On va être aussi fonctionner dans un monde qui est beaucoup plus... tendue en termes de ressources naturelles. On voit des peurs qui augmentent et les peurs ne sont jamais bonnes conseillères. Mais en revanche, il faut se souvenir que l'être humain a pour vocation à être à fructifier et à multiplier et à être une formidable vecteur de bien-être et de croissance pour l'humanité. Donc la Terre a été créée pour l'homme. Et l'homme a une responsabilité par rapport à la Terre, à la société. Et en tant qu'économiste, je pense qu'on est dans une période où, contrairement peut-être au siècle précédent, où c'était le pouvoir militaire et le pouvoir politique qui dominaient en quelque sorte l'organisation de la société, aujourd'hui, on est dans un pouvoir économique qui organise la société. Et donc, les entrepreneurs, les économistes, les hommes d'affaires ont un rôle non pas seulement économique, mais aussi un rôle social, politique et aussi un rôle philosophique. Donc il y a une extension du rôle des acteurs économiques qui va bien au-delà que simplement gérer ces petites affaires. Donc je vous engage à tous à vous dire, c'était l'expression qu'avait, je crois que c'était Henri IV qui disait lorsqu'il visitait le chantier de Notre-Dame, il posait la question à plusieurs maçons qui étaient là, qui participent à la construction de la cathédrale. Il demande au premier « qu'est-ce que vous faites ?» Et le premier répond « écoutez, sire, moi je construis un mur ». Et il pose la question à un deuxième qui était assis à ses côtés et qui faisait la même chose, puisqu'il mettait des pierres l'une sur l'autre. Il lui dit « et vous, que faites-vous » Et il lui dit « sire, moi je construis une cathédrale ». Donc, quelle que soit la taille de l'entreprise dans laquelle vous êtes, que vous êtes une petite entreprise ou une très grande entreprise, sachez que si vous avez la vision de faire partie d'un modèle économique qui construit l'humanité, qui construit le monde et qui est responsable vis-à-vis de l'environnement, vous êtes comme ce deuxième maçon qui, effectivement, tous les jours, peut-être a l'impression de construire un mur, mais in fine, il construit une cathédrale.
Merci Bruno. Sur ces belles paroles qu'on va arrêter le podcast, je te remercie.
Merci beaucoup.
Tu m'as appris énormément. Merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les plateformes de podcast, Pendinstall, Bababam, Spotify, Deezer. Et n'hésitez pas à me recommander des profils aussi inspirants que Bruno. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte. Vous pouvez aussi commenter et liker le podcast. Merci beaucoup.